L'Europe ne se fera pas d'un coup.
Ce n'est pas contre une nation quelconque que nous nous rassemblons.
On peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien.
France Culture.
L'Europe marche à nouveau sur deux jambes.
Les termes du débat européen.
Le débat, il n'est pas entre moins d'Europe et plus d'Europe.
Le débat sur l'avenir de l'Europe a ainsi été relancé.
Ce sera une autre manière de découvrir l'Europe.
Emmanuel Laurentin.
Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat spécial du vendredi. Les termes du débat européen, une émission pendant laquelle nous nous attachons à un terme qui nourrit le débat public aujourd'hui en Europe. À l'ordre du jour ce soir, frontières et Finlande. La Finlande possède en effet 1340 km de frontières communes avec la Russie, frontière qu'elle a renforcée depuis plusieurs années. Malgré tout, depuis le 29 novembre, elle l'a fermée, à l'exception d'un seul point de passage, prenant pour prétexte la guerre hybride, telle qu'on la nomme, que Vladimir Poutine lui mène, en particulier en regroupant des migrants moyen-orientaux et africains à la frontière russo-finlandaise. Une pression plus forte encore depuis l'adhésion du pays à l'OTAN en avril dernier. Il faut dire que par ailleurs, la nouvelle coalition au pouvoir depuis moins d'un an à Helsinki, coalition à laquelle participe le parti d'extrême droite qu'on appelle ici les vrais Finlandais, a mis en place une politique d'asile bien plus sévère qu'auparavant et que les questions migratoires et d'identité prennent une place désormais de plus en plus vaste dans le débat public finlandais. C'est d'ailleurs un des sujets qui ont nourri la campagne électorale pour l'élection du président, dont le premier tour a lieu ce dimanche en Finlande. Frontière est donc le terme clé de ce jour dans les termes du débat européen à propos de la Finlande et nous sommes en présence de Linda Apajaravi. Excusez-moi de mal prononcer votre nom, je vais essayer de bien le prononcer jusqu'à la fin de cette émission. Vous êtes chercheuse en sociologie à l'université de Tampere et vous êtes membre associé au centre Maurice Alvax à Paris et à l'institut Convergence Migration. À distance avec nous, Louis Clerc, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur en histoire contemporaine à l'université de Turku en Finlande et avec nous Julien Jandebeau. Donc vous êtes bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur au Centre de politique internationale et professeur en études européennes et internationales à l'Université libre de Bruxelles, l'ULB en Belgique et spécialiste de la question des frontières.
Venäjän viranomaiset eivät ole toimintaan puuttuneet, päinvastoin.
Les autorités russes ne seraient pas intervenues, mais certains signes indiquent le contraire. L'instrumentalisation de l'immigration est un moyen d'influencer la situation intérieure et la sécurité des frontières en Finlande et dans l'Union européenne. Nous n'acceptons pas ce type d'action.
Avons-nous eu des différends avec la Finlande ? Tous les différends, y compris les différends territoriaux, au milieu du XXe siècle, ont été résolus depuis longtemps. Nous avons eu les relations les plus aimables et les plus chaleureuses. Il n'y avait pas de problème, mais maintenant, il y en aura. En effet, nous allons y créer le district militaire de Leningrad et y concentrer certaines unités militaires.
Vous venez d'entendre une sorte de dialogue à distance entre le Premier ministre finlandais Petteri Orpo, qui s'exprimait en novembre dernier, suivi de Vladimir Poutine au mois de décembre. Instrumentalisation de l'immigration, dit d'un côté le Premier ministre finlandais, et de l'autre côté, Vladimir Poutine, qui rappelle qu'il y a eu de très bonnes relations, très aimables pendant longtemps, entre la Finlande et la Russie. Il est intéressant de voir ces deux types de discours, Linda Apajaravi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ils correspondent à l'époque dans laquelle nous sommes maintenant ?
Ces deux points de vue différents. C'est très intéressant de commencer par cela. Je pense que on a des choses à prendre en compte des deux côtés. Donc, à la fois cette peur finlandaise d'instrumentalisation des migrants pour déstabiliser le pays, l'ordre intérieur. Donc, et là, il faut prendre en compte ce qu'on avait appelé la crise de migration de 2015, sinon la crise d'accueil, comme d'autres l'ont posé, avec l'arrivée de 30 000 environ migrants en Finlande en ce moment-là, donc en 2015, qui a déjà amené à endurcissement des politiques migratoires. Aujourd'hui, on est à quelques 1 500 d'arriver. Donc on est très très loin quand même de ce vocabulaire que a très très vite déployé le premier ministre finlandais Petteri Orpo. Du côté de Poutine, en effet, je crois qu'il a des choses à retenir. Je passerai pas, je ne monopoliserai pas la parole, mais c'est vrai que cette frontière russe, finno-russe, représente une menace historique dans l'imaginaire finlandais, au moins depuis l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, puis un régime socialiste, avec un certain relâchement, peut-être, dans les années 90-2000, avec un
réchauffement, pourrait-on dire.
Un réchauffement, et d'une certaine manière, tout à fait.
Oui, avec une politique finlandaise qui était plutôt ouverte, justement, à la coopération avec la Russie.
La Finlande s'ouvrait en 1995 à l'Union européenne. La Russie aussi, on espérait, avec la fin du régime soviétique, un certain processus de démocratisation, une ouverture vers la Finlande. Moi, je suis l'enfant de cette période. Et c'est en effet la période que j'ai connue. Donc, cette crispation autour de la frontière a aussi une part de nouveauté.
Oui, Julien Jean Desbeaux, vous êtes spécialiste de ces questions de frontières. Est-ce qu'il y a une part d'instrumentalisation des deux côtés, d'une certaine façon? Du côté russe, on le sait, parce qu'on a déjà vu avec la Biélorussie, alliée de la Russie, ce type de pression migratoire sur des pays de l'Union européenne, mais aussi peut-être du côté du gouvernement finlandais qui dit qu'il y a une menace. Et on a bien compris en écoutant Linda qu'il y avait effectivement une différence entre ce qui s'était passé en 2015, en termes numériques en particulier, du nombre de pressions migratoires sur la Finlande, et aujourd'hui.
Oui, en effet, donc si on en croit les spécialistes de cette question de l'instrumentalisation de la migration, en fait c'est une stratégie interétatique qui est quand même assez ancienne, c'est-à-dire qu'on la retrouve depuis au moins une cinquantaine d'années. Dans les années 90, déjà, le gouvernement albanais avait obtenu des concessions de la part du gouvernement italien en échange d'un contrôle plus resserré sur le départ de ses ressortissants. C'était le cas en 99 aussi, quand Slobodan Milosevic avait menacé de vider le Kosovo au moment de la campagne de bombardement de l'OTAN. Mais ce qui change, en fait, dans les circonstances actuelles, c'est la propension des parties prenantes à déclarer publiquement qu'ils sont, dans ce cas, dans le cas du gouvernement finlandais, la cible d'une démarche d'instrumentalisation. En général, dans les épisodes précédents, en tout cas avant les années 2000, ça se réglait en coulisses. Et dans ce cas présent, on a un affichage très clair de la part du gouvernement finlandais qui dit, écoutez, nous sommes confrontés à une instrumentalisation de la migration, ce qui nous contraint à fermer les frontières. Donc on a effectivement un jeu symbolique autour du contrôle de la frontière, autour du contrôle des personnes qui la franchissent, qui ne dépend pas du nombre de personnes en fait qui sont concernées.
Oui, et on peut dire d'une certaine manière, Louis Clerc, que on peut être surpris par cela, mais en même temps, on peut comprendre d'une certaine manière la position de la Finlande, qui se trouve effectivement avec 1340 km de frontière avec la Russie, comme je l'ai appelé. Et puis, il y a le vieux souvenir, alors à la fois de la guerre d'hiver, de la contre-offensive, de cette guerre qui a été très difficile pendant la Seconde Guerre mondiale entre la Finlande et la Russie, et puis de cette position de neutralité que s'était donné la Finlande de lieu entre les deux mondes, d'une certaine manière, entre le monde soviétique et le monde occidental pendant toute la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale.
Oui, tout à fait. Alors, les invités précédents ont bien résumé la situation actuelle, mais c'est vrai que c'est une situation à la frontière qui n'est pas cette frontière a une histoire. Elle a été, elle émerge de la Seconde Guerre mondiale et pendant la guerre froide, elle est relativement calme. Évidemment, l'Union soviétique puis la Russie est le seul danger de sécurité qui pèse sur l'indépendance finlandaise. Mais comme il y a une coopération pendant la guerre froide entre les autorités finlandaises et les autorités soviétiques, en particulier concernant le retour des personnes qui cherchent à fuir l'Union soviétique, la situation se passe relativement bien. Après la fin de la guerre froide, comme a dit Linda, il y a une période, une sorte de lune de miel entre la Finlande et la Nouvelle-Russie. Mais il faut bien voir que la crise actuelle concernant la frontière, s'établit dans un contexte qui est très clair, qui est le contexte de la guerre en Ukraine, de l'entrée de la Finlande dans l'OTAN, et aussi d'une campagne pour les élections présidentielles où il y a trois candidats en course, on va dire, de façon sérieuse, la droite conservatrice, les Verts et le parti d'extrême droite, le représentant de l'extrême droite. Et donc, en fait, il est tout à fait crédible que les Russes pensent à peser un peu sur cette campagne pour, en fait, augmenter encore les fractures à l'intérieur de la société finlandaise.
Oui, il faut quand même rappeler le traumatisme à la fois de la Seconde Guerre mondiale, comme je le disais, mais aussi l'image particulière qu'en avait tiré la Finlande, un vaillant petit pays qui tient tête à l'ogre soviétique. C'est important. Et il faut rappeler pour les auditeurs, peut-être Louis Clair, le bilan de cette Seconde Guerre mondiale pour le pays et pour les soviétiques qui lui faisait la guerre pendant cette guerre d'hiver. C'est un bilan très très lourd tout de même.
Alors c'est clairement une guerre qui a été extrêmement dure pour les Finlandais. C'est une guerre qui a été perdue par les Finlandais. Les Finlandais ont d'abord perdu des terres en 1940, puis à travers une semi-alliance avec l'Allemagne, essayé de les récupérer. Mais la fin de la guerre en 1944-1945 laisse un pays entièrement isolé face à l'Union soviétique, qui doit petit à petit reconstruire des relations avec l'Union soviétique. La chance de la Finlande, c'est que c'est un pays relativement périphérique, qui n'est pas au cœur des problématiques géopolitiques européennes et au cœur des problématiques de la vision géopolitique de l'Union soviétique. Ce qui fait que les Finlandais ont eu la possibilité de reconstruire une sorte de position un peu à mi-chemin entre l'Est et l'Ouest. Mais très clairement, si on considère la frontière, les personnes qui tentent de quitter l'Union soviétique pendant la guerre froide et qui sont capturées par les autorités finlandaises sont systématiquement ramenées de l'autre côté de la frontière. Donc il y a une coopération sur cette frontière qui est très importante et qui en fait ne s'interrompt que assez récemment avec les tensions entre les deux pays qui ont monté du fait de la Russie essentiellement, du fait de la crise avec l'Ukraine.
Linda Pajarvi, si on regarde, et ça vient d'être évoqué par Louis Clair, la composition de ce nouveau gouvernement que vous avez depuis, que la Finlande a depuis maintenant un peu plus d'un an, un peu moins d'un an d'ailleurs, qui est un gouvernement de coalition, ce gouvernement a une position particulière parce qu'il est composé à la fois du Parti populiste des Suédois, il est composé aussi justement de ce parti qu'on appelle ici, je ne sais pas si c'est le vrai terme, les vrais Finlandais, je ne sais pas si comment.
Je crois qu'il s'appelle maintenant seulement les Finlandais. Ah oui, en français.
D'accord, et les Finlandais. Et puis, il y a d'autres compositions comme le mouvement chrétien-démocrate et donc le parti de la coalition nationale, au nom duquel d'ailleurs le présidentiable Alexander Stubb se présente demain, après-demain, au premier tour de l'élection présidentielle. Donc, on a là un parti de coalition très marqué à droite et qui, d'ailleurs, va avoir bientôt une grève assez importante, presque une grève générale à cause de la réforme du marché du travail qu'il veut faire, avec une position très particulière de réduire la dette de la Finlande et en même temps d'être plus dur, sûrement sous la pression de ce parti des Finlandais, donc d'être plus dur sur la question migratoire.
Oui, tout à fait. Les questions de migration, des politiques migratoires sont au centre de ce débat, un débat électoral, donc avec les élections qui arrivent là dimanche. Et la coalition est arrivée en pouvoir, vous le dites bien, en début d'été, l'année dernière, accompagnée déjà pas mal de scandales autour des propos racistes tenus par les ministères, si l'on proche de ces partis, notamment des Finlandais, en public, dans les médias sociaux. Donc, ça a été assez houleux jusqu'ici, cette gouvernance. Parmi les... on a déjà vu, après 2015, un endurcissement avec le gouvernement précédent de l'époque, qui était également de droite et au sein duquel on voyait aussi le parti d'extrême droite, un vrai finlandais. Donc, ce n'est pas la première fois qu'ils sont dans le gouvernement. Entre-temps, on a eu aussi un gouvernement de social-démocrate de Sanna Marin, qui était un peu plus humanitaire, si on veut, en termes de questions de politique migratoire. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que tout de suite en été, quand le nouveau gouvernement de coalition de droite est arrivé au pouvoir, il y a une série de propositions de réformes en termes de politique migratoire qui sont extrêmement similaires d'ailleurs à ce qu'on voit en France en ce moment.
Oui, donc, c'est assez étonnant. On faisait l'émission hier sur la loi immigration, c'est très proche.
Exactement. Je pense que c'est beaucoup plus proche que ce qu'on pense. Souvent, quand on regarde depuis la France, la Finlande ou sinon globalement les pays nordiques, avec parfois cette représentation un peu idyllique, comme des pays qui ont su préserver un certain multiculturalisme serein, etc., avec la justice sociale, l'égalité. Donc là, les politiques qui sont mises en place depuis l'été dernier, qui sont en voie de mise en place, c'est notamment les politiques d'asile endurcies. Donc,
on ne devrait plus accueillir. Alors, les chiffres vont faire bondir les Français qui nous écoutent, parce que c'est très peu que
500
demandes d'asile par an.
Exactement.
Alors qu'il y en avait
1500. Voilà, au lieu de 1050.
Ah, 1050.
Donc, les chiffres sont extrêmement petits quand on pense quand même que la Finlande compte une population de 5,5 millions de personnes. Donc, 500 personnes accueillies par an pour protection humanitaire. Donc, une réduction en coupe à moitié. On rompt aussi cette protection humanitaire temporaire. Donc, si cette protection est rendue, au bout de 3 ans, elle serait réexaminée. Et si on considère le pays d'où est ressortissant, la personne à laquelle la protection a été accordée, comme sûr, de nouveau, on expulse. Donc, c'est quand même une réforme extrêmement radicale. Les autres mesures concernent la politique de citoyenneté. Donc, demander une présence de 8 ans au lieu de 5 ans au pays, avant de pouvoir demander la naturalisation. Aussi, introduire le test de citoyenneté, qui existe déjà en France, en d'autres pays européens. Et puis, endurcir également les conditions de regroupement familial et accès au permis de séjour.
Alors, avec une particularité aussi, il faut le mentionner, c'est que la Finlande a besoin de main-d'œuvre. Donc, ça pose une autre question. Julien Jean Desbeaux, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi cette politique finlandaise qui était en train d'être mise en œuvre est différente ou pas d'ailleurs des autres politiques européennes? Il y a l'aide de Frontex comme d'autres pays qui ont pu l'avoir auparavant, que ce soit la Grèce, l'Italie ou Malte en Méditerranée. Il y a donc l'aide de cet organisme européen des frontières, mais il y a aussi l'idée que là où on voyait la Grèce comme bouclier de l'Europe à un moment, puisqu'il y avait une forte pression migratoire sur la Grèce venant en particulier de Turquie, eh bien on pourrait dire là il y a aussi une vision de la Finlande Finlande et de la Pologne voisine qui pourrait aussi apparaître comme une sorte de bouclier vis-à-vis d'un autre type d'immigration.
Oui, tout à fait. Dans les débats qui occupent les acteurs politiques finlandais, la situation de la Finlande, la politique que le gouvernement est en train de mettre en œuvre à l'actuel, s'inscrit dans une tendance européenne. On a un débat à l'heure actuelle à l'échelle de l'Union européenne sur la configuration du nouveau système commun d'asile. Et la tendance qui se dessine, c'est une tendance à autoriser les États membres à déroger de plus en plus aux règles communes et à prendre des libertés avec leurs obligations internationales dans le cadre de la Convention de Genève sur les réfugiés. Donc on a cette... La Finlande n'est pas seule dans ce cas, et ce qui est assez frappant, c'est que à chaque fois qu'un pays européen ces dernières années a été confronté à ce genre d'action, alors qu'on appelle très maladroitement, je pense, ou de manière très symbolique, une action de guerre hybride, ce qui est problématique, hein, puisqu'il s'agit de personnes réfugiées et pas d'armes. Donc à chaque fois qu'un pays européen est confronté à cette situation-là, on observe les mêmes pratiques, c'est-à-dire une tendance à des mesures pour déroger à un certain nombre d'obligations. Mm-hmm. Donc par exemple l'enregistrement des personnes qui arrivent à la frontière, l'empêchement de déposer une demande d'asile, mais aussi dans le cas de la Pologne par exemple depuis 2021, une politique systématique de refoulement des personnes qui se présentent à la frontière avec le Bélarus.
On en parlera d'ailleurs vendredi prochain, puisque le nouveau terme du débat européen de vendredi prochain sera Pologne et migrants, puisqu'il y a un film qui sort bientôt sur nos écrans autour de la question de la migration depuis la Biélorussie. Je vous laisse continuer, Julien Jean Desbeaux.
Et donc le débat à l'heure actuelle est de savoir est-ce que les règles européennes doivent autoriser les États membres à déroger de plus en plus et de manière de plus en plus systématique à leurs obligations, ou est-ce qu'au contraire les règles européennes doivent permettre aux États européens de mieux accueillir les personnes. Parce qu'effectivement, on est dans un jeu qui est en partie, dans une interaction qui est en partie symbolique. Au plus la réaction est forte et se traduit par des mesures telles que la fermeture des frontières, au plus il est tentant pour un acteur de pays tiers de recommencer.
Et donc, tentant de la part de Vladimir Poutine, j'imagine, c'est ça?
Exactement, entre autres. Mais donc, au plus l'enjeu est polarisant, au plus il soulève des oppositions, au plus effectivement cette stratégie peut être rémunératrice de différentes manières. Donc, effectivement, de la part des spécialistes de ces questions-là, la réponse la plus logique à des stratégies d'instrumentalisation des réfugiés, c'est en fait de les accueillir. Et c'est d'autant plus quelque chose qui semble d'autant plus faisable que on a un exemple dans le récent, c'est-à-dire l'accueil des réfugiés ukrainiens, de millions de réfugiés ukrainiens dans les pays européens, d'une manière qui a été, alors certes pas exemple de problème, mais dans l'ensemble, remarquable. Et donc, effectivement, quand on voit les chiffres auxquels la Finlande est confrontée, localement, on peut tout à fait comprendre que c'est un stress énorme pour les systèmes administratifs et l'accueil, la réception des personnes concernées. Mais on peut aussi se dire que plutôt que de déployer Frontex, qui est donc une agence qui est en charge du contrôle des frontières ou d'aider les États membres à contrôler les frontières, donc qui est un service répressif.
On en est à combien de 200 km de la frontière qui ont été donc dotés de caméras, de protection, de radars, etc., etc. C'est cela, je crois, pour la frontière russo-finlandaise pour l'instant.
Alors, je vous avoue, je n'ai pas vérifié ces chiffres-là, mais par contre, il y a quelques jours un rapport interne du service des gardes frontières polonais qui a fuité dans la presse et dans lequel les gardes frontières polonais indiquent que la clôture frontalière qui a été déployée à la frontière avec le Bélarus, en fait, ne sert pas à grand-chose. Puisqu'ils estiment qu'il y a à peu près 30 000 personnes qui ont été détectées en train de franchir la frontière.
D'accord.
Donc ce genre de mesures sont des mesures très symboliques, sont des mesures qui sont très visuelles aussi, hein, très médiatiques, mais qui effectivement ne permettent pas, à moyen terme, de faire preuve de résilience, pour utiliser un mauvais mot, par rapport à cet enjeu et cette stratégie.
Merci beaucoup, Julien Jean Desbeaux. Linda Pajarvi, et puis je donnerai la parole juste après un petit élément que nous allons écouter à Louis Clair.
Oui, donc moi je voulais juste, je pense que 1300 personnes, on va quand même se rappeler les chiffres, 1300 personnes pour la Finlande, pour un pays de 5,5 millions de personnes, un des pays les plus riches de l'Europe, avec un état social, des administrations extrêmement développées, ça va pas faire effondrer le pays en termes d'infrastructure. Ouais. Là, on a affaire à une panique morale. Donc, je pense qu'il faut en être clair. Et je voulais ajouter à ce que disait mon collègue tout à l'heure, Jean Debout, c'est que il faut aussi se rappeler qu'en 2015, hein, c'est assez intéressant, la Finlande a voté contre, par exemple, le mécanisme européen de distribution des réfugiés qui sont arrivés ou des demandeurs d'asile. Et je crois qu'ils étaient 1,8 million, si je ne me trompe pas. Donc, la Finlande a aussi beaucoup changé de sa direction dans sa politique, énormément,
2015.
En faisant appel à Frontex, qui justement provoque les solidarités européennes en termes de sécurité de frontières.
18h43 sur France Culture, vous écoutez le terme du débat européen. Nous parlons de Finlande et en particulier des frontières de la Finlande avec la Russie.
Helsinki, c'était le grand soleil de la détente. 35 États, dont la France, signaient une véritable charte de bonne conduite européenne. 35 États, dont de très grands, comme les États-Unis du président Ford, des très petits, comme le Vatican et Saint-Marin, des moyens, comme la Grande-Bretagne. L'acte final de la conférence déclarait inviolables les frontières nées de la dernière guerre. Léonid Brejnev pouvait donc le signer avec satisfaction, puisque ce texte consacrait, en fait, la mainmise soviétique sur l'Europe de l'Est. On sait la suite. La conférence d'Helsinki a engendré d'autres conférences. À Belgrade, à Madrid, les 35 mêmes pays ont discuté pendant des années de sécurité, de coopération. 35 pays toujours, dont l'ensemble des pays européens, de l'Ouest et de l'Est.
France Culture, les termes du débat européen, Emmanuel Laurentin.
Tous ceux qui ont connu comme moi la guerre froide se souviendront de la voix de Georges Bortoli sur Antenne 2 à l'époque, il est en 1985 pour les 10 ans des accords d'Helsinki, il se rappelait effectivement de cette conférence de 1975 pour la coopération et la sécurité en Europe. Est-ce que cela a une importance aussi, Louis Clair, en tant qu'historien, dans la vision que la Finlande s'est faite de ses relations internationales, autant ou peut-être plus que la Seconde Guerre mondiale dont on parlait avec vous auparavant ?
Tout ça, évidemment, la conférence d'Helsinki 1975, la signature de la CSCE, tout ça paraît très lointain maintenant, surtout depuis 2022 où les relations sont extrêmement compliquées avec un des principaux signataires qui est la Russie. La Finlande, les autorités finlandaises parlent beaucoup de la CSCE puisque c'est un des grands succès en fait de la diplomatie finlandaise. C'est considéré comme un grand succès de la diplomatie finlandaise le fait d'accueillir cette conférence, le fait aussi de participer aux négociations et d'avoir fonctionné comme une sorte de médiateur entre les grandes puissances.
Mais c'est d'ailleurs un des rôles internationaux de la Finlande que de se penser en médiateur international. Ce pays a fourni beaucoup de médiateurs dans beaucoup de conflits.
Exactement. Le président Martti Ahtisaari qui vient de décéder et qui avait été nommé prix Nobel en 2008 pour son activité de médiation pour la paix. Mais cette activité évidemment demande à ce que la Finlande soit entre les blocs. La Finlande de la guerre froide se présentait comme un pays neutre qui lui donnait la possibilité de faire cette médiation. Or aujourd'hui, après l'entrée dans l'OTAN et là encore essentiellement du fait des pressions qui sont mises sur le pays. Par son grand voisin, la Finlande n'est plus concrètement un pays neutre. Elle fait partie d'une alliance, elle fait partie d'un bloc. Donc ça complique évidemment les relations essentiellement avec la Russie et ça complique très probablement la gestion raisonnable de cette question de frontière.
Oui. Et allez-y, je vous laisse continuer, Louis-Claire.
Non, je voulais finir en fait toujours en rappelant le fait que cette aussi bien l'expérience de la Seconde Guerre mondiale que cette expérience d'Helsinki et cette expérience de guerre froide sont importantes aussi dans le débat aujourd'hui en Finlande.
Oui, Linda Pajarvi, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi le fait de se rapprocher du camp occidental par l'intermédiaire de l'entrée dans l'OTAN, je crois que c'est le 31e membre de l'OTAN, la Finlande depuis l'année dernière, change un peu la donne et change aussi cette histoire particulière de l'entre-deux qui était l'histoire de la Finlande depuis au moins la Seconde Guerre mondiale, cette histoire où on se plaçait ni dans un camp ni dans un autre et on servait de médiation entre les deux. Est-ce que ça change véritablement quelque chose pour la Finlande dans sa politique internationale vis-à-vis de la Russie, bien évidemment?
Je crois bien. Et j'étais d'ailleurs, moi ça fait longtemps que je vis en France, mais je vais régulièrement en Finlande. Donc j'étais en fait frappée par l'ambiance qui régnait en Finlande au moment où le pays a rejoint l'OTAN. Je sentais autour de moi que mes co-citoyens étaient comme soulagés. Donc, se sentaient protégés.
Parce que la question de la menace russe est une question quand même qui est en arrière des décisions qui sont prises par les gouvernements.
Oui, tout à fait. Et il faut se rappeler aussi que la Deuxième Guerre mondiale, que le collègue Claire vient d'évoquer, pour laquelle la Finlande a payé un tribut très lourd, n'est pas loin. C'est en fait les générations de mes grands-parents. Donc, c'est quelque chose qui est encore intelligible, qui est très, très présent dans la mémoire familiale.
On peut se souvenir de Purge de Sofia Oksanen qui a eu un grand succès ici en tant qu'écrivaine finlandaise qui racontait quand même effectivement ces moments extrêmement douloureux de l'histoire de la Finlande.
Oui, là je crois qu'on se situe plutôt en Estonie, mais on a été dans ce roman en particulier.
Ouais, ces romans futurs.
Oui, tout à fait. Mais les romans qui ont suivi se sont plutôt adressés aux Finlandais. Et cette peur est très 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 présente. Et il y a une politicisation, je trouve, des émotions collectives dont participent aussi... les enjeux électoraux du moment, les débats qui sont menés, la montée en puissance de l'extrême droite qui joue clairement sur cette peur de la Russie.
Oui, de votre côté, on pourrait dire, Julien Jandébeau, que la question c'est de savoir si la position finlandaise est seule, si elle est soutenue par l'OTAN et par l'Europe, si on peut envisager dans cette région de l'Europe septentrionale des alliances avec des pays qui sont proches et qui participent aussi à l'Union européenne. Est-ce que l'on sait cela ou est-ce que ça en fait partie ou est-ce que ces questions sont des questions qui sont renvoyées généralement aux pays eux-mêmes et pas à des entités, plus importantes comme l'Union européenne?
Merci. Alors, pour ce qui concerne l'OTAN, je vais me permettre de le laisser de côté, parce que c'est quelque chose dont je suis moins familier. Pour ce qui concerne l'Union européenne, on a eu des prises de position, y compris de la présidente de la Commission européenne, appuyant tout à fait la Finlande dans sa démarche de fermer les frontières et d'affirmer son contrôle sur cette frontière orientale. Les orientations que manifeste le gouvernement finlandais en matière de contrôle frontalier, elles sont, on en a parlé tout à l'heure, elles sont partagées par de nombreux pays européens. On est même en train à l'heure actuelle à Bruxelles de discuter d'un nouveau règlement qui permettrait, qui formaliserait la notion d'instrumentalisation de la migration et qui mettrait à disposition notamment de la Commission européenne des outils pour permettre aux États membres de faire face à ce genre de démarche.
Alors, ça veut dire que c'est assez répandu. Vous citiez l'Albanie au tout début face à l'Italie il y a quand même maintenant plus de 20 ans. C'est assez répandu pour que l'Europe, l'Union européenne, s'imagine qu'il soit nécessaire de faire une sorte de corpus de réglementation autour de cette question-là, Julien Jean Desbeaux.
Alors c'est tout le débat, c'est-à-dire que il y a deux ans, juste après l'épisode du Bélarus, la Commission avait proposé un règlement purement centré sur l'instrumentalisation, en disant qu'il fallait donner aux États membres les moyens de faire face à ce genre d'enjeux. Et les États membres au sein du Conseil des ministres n'avaient pas trouvé de majorité pour approuver ce texte-là. La question, c'est, comme on a parlé tout à l'heure, l'instrumentalisation, c'est une stratégie que l'on connaît, qui est relativement ancienne en tant que telle. Mais la question qui se pose maintenant, c'est est-ce que on a besoin d'un mécanisme européen et qui définit ce que c'est que l'instrumentalisation de manière très très floue à l'heure actuelle. Donc on parle, le texte qui est en discussion parle d'une intention d'un État tiers et laisse les États membres et la Commission juger de ce qui serait l'intention d'un État tiers. Et c'est un instrument à utiliser avec précaution parce qu'il suppose il implique toute une série
comme le terme de guerre hybride dont on parle souvent dans ces cas.
Parce qu'il autorise toute une série de dérogations en fait aux obligations des États membres européennes et internationales en matière d'accueil des personnes réfugiées qui a des implications extrêmement sérieuses sur les conditions de réception de ces personnes, mais aussi sur, dans certains cas, à l'heure actuelle, on parle à la frontière polonaise, on parle d'au moins 55 morts depuis que la politique systématique de refoulement a été mise en place en 2021. Donc ce sont des politiques qui coûtent des vies. Et je me permets juste un petit point à ce sujet-là, ce qui est
brièvement, s'il vous plaît. Oui,
très brièvement. Dans le cas du gouvernement finlandais, se pose aussi la question de ces coalitions avec des partis d'extrême droite qui, en fait, limitent la marge de manœuvre des gouvernements européens sur ces questions.
Louis Clerc, est-ce qu'on peut dire quelque chose sur une particularité qui m'a surpris personnellement de la Finlande? C'est une très forte armée, une armée de 280 000 soldats et 780 000 réservistes, c'est énorme. C'est-à-dire que contrairement à toutes les armées européennes, on n'a pas profité de ce temps de détente d'après la chute du mur de Berlin pour pouvoir transformer des armées avec, on en parlait ici même il y a peu de temps dans le temps du débat, avec beaucoup moins de soldats et en professionnalisant. Là, il y a quand même 280 000 soldats et 780 000 réservistes.
Oui, tout à fait. Alors, ça reste une armée limitée si on la compare avec l'armée russe, mais ça reste une armée qui est très largement en état de faire ce qui est sa mission principale, qui est de défendre son rôle principal, qui est de défendre le territoire finlandais. Alors maintenant que la Finlande fait partie de l'OTAN, le rôle change un petit peu, puisque le rôle de la Finlande maintenant militairement, c'est aussi de servir de d'agir dans l'alliance, donc aussi de pouvoir espérer de l'aide de l'alliance, etc. Mais c'est vrai que la Finlande garde une armée assez importante. Le problème, évidemment, comme je pense le suggère Julien, c'est de voir un peu ce problème de migration et cette instrumentalisation des migrations comme un problème purement de sécurité et purement militaire, qu'on pourrait régler par des moyens militaires. Or, là encore, Julien l'a souligné, c'est une politique qui coûte des vies et qui ne serait pas, je pense, à l'honneur du gouvernement finlandais. Alors, ça s'explique aussi dans le cadre de cette coalition qui est basée sur une vision assez dure et assez basée sur la sécurité et sur des choses assez dures. Surtout en rapport avec la frontière, l'idéologie de la frontière et une vision de la frontière particulière.
Linda Pajarvi, est-ce qu'on peut conclure avec vous sur cette élection qui va, dans le premier tour, va avoir lieu après-demain, donc avec deux candidats principaux, Alexander Stubb et Pekka Haavisto, qui est le vert, qui représente plus ou moins la gauche finlandaise. Et sept autres candidats, est-ce qu'on peut imaginer quelque chose ou est-ce qu'il y a trop de flou, pourrait-on dire, avant un deuxième tour qui aura lieu le 11 février pour savoir ce qui va en sortir?
Moi, je ne lancerai pas là dans de tels pronostics. Par contre, il y a une chose que je souhaiterais vraiment souligner depuis qu'on mène ce débat, c'est qu'il ne faut pas imaginer que cette frontière dont on parle, cette frontière finno-russe, massive, 1300 kilomètres, on l'imagine aussi, il fait froid, c'est inhabité, il y a des loups, c'est assez terrible en réalité. Hein. Donc, mais cette frontière n'est pas étanche. Nous vivons dans un monde où les gens circulent. Et les Russes, hein, la minorité russe est la première minorité présente en Finlande.
Nous, d'ailleurs, ça population... lui pose un problème, d'ailleurs, pour revenir à Saint-Pétersbourg, par exemple, de passer cette frontière et de ne pas pouvoir peut-être re-rentrer.
Exactement. Donc, nous comptons près de 100 000 personnes russophones en Finlande. C'est à peu près un cinquième de la population immigrée de notre pays. Donc, cette fermeture de la frontière n'est pas qu'une mesure sécuritaire. Elle va avoir aussi des conséquences extrêmement réelles sur les vies de famille, les organisations de la société civile, les travailleurs et par exemple les étudiants. Milliers d'étudiants qui sont présents en Finlande, qui sont russes. Et depuis que les banques, système bancaire par exemple, ne communiquent plus de fonds qui arrivent depuis leurs parents, leurs familles, depuis leur pays. Donc on va créer des vies extrêmement compliquées pour la minorité russe, russophone, qui parfois est présente sur le territoire finlandais depuis plusieurs générations, qui est mariée à des Finlandais, etc. Donc on regarde aussi une réalité assez sinistre quand on ferme cette frontière donc à l'intérieur du pays.
Est-ce qu'on peut imaginer que ça dure plus longtemps que le 11 février? Parce que pour l'instant, c'était repoussé, cette fermeture de frontière, au 11 février. Est-ce que là, on est parti pour une durée plus longue, vous le pensez, ou est-ce que ça n'est pas le cas?
C'est une des questions que je me pose aussi. Pourquoi cette gestion de la frontière qui se fait aussi dans le temporaire? Les mesures de fermeture sont toujours mises en place pour un mois et puis on revise. Je ne sais pas, sincèrement. Moi, je crois qu'il faut attendre à voir ce qui arrive si la frontière est ouverte, ce qui serait d'ailleurs un soulagement justement pour les familles, les organisations, les étudiants, les travailleurs aussi qui traversent la frontière pour tout simplement vivre.
Merci beaucoup à vous, Linda Apajärvi, d'être venue avec nous. Vous êtes chercheuse en sociologie à l'Université de Tampere. Vous êtes membre associé au Centre Maurice Alvax à Paris et à l'Institut Convergence Migration. Merci à vous, Louis Claire, depuis Turku, où vous êtes enseignant, professeur en histoire contemporaine à l'Université Turku en Finlande. Et à vous, Julien Jean Desbeaux, chercheur au Centre de politique internationale, professeur en études européennes à l'ULB, l'Université libre de Bruxelles, spécialiste de la question des frontières, de nous avoir éclairé sur ce terme du débat européen qui était frontière. Et sur le pays qui le porte d'une certaine manière, la Finlande. C'était le temps du débat, préparé ce soir par Nina Richard, qui quitte notre équipe après un formidable stage de 6 mois avec elle. Je tenais au nom de toute l'équipe à la remercier pour son travail au service du temps du débat, pour l'animation des émissions, mais à l'animation également des équipes hors des émissions. C'était formidable de l'avoir avec nous. Merci également à Mathias Mégy, Fanny Richer, Roxane Poulain, Stéphanie Villeneuve. Réalisation Laurence Malonda, avec à la technique Marie-Claire Oumabadi. Grand remerciement à notre collègue Pierre Benazé qui recevait donc dans son bureau de Bruxelles en tant que correspondant de Radio France à Bruxelles, qui recevait notre invité Julien Jean Desbeaux.